18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Katia Bognatichvili, bonsoir.
Bonsoir.
Vous n'avez pas de disque qui est sorti, vous venez pour une chose très précise parce que vous avez été choisie par l'association SOS Village d'Enfants pour les représenter dans cette journée sur Radio Classique. Alors, nous en sommes très heureux, nous, parce que les auditeurs de Radio Classique vous aiment beaucoup. J'imagine que vous venez aussi un peu pour les auditeurs de Radio Classique.
Tout à fait. Mais c'est un grand honneur de représenter aujourd'hui SOS Village. C'est aussi très agréable de vous reparler sur différents sujets. C'est toujours agréable avec vous. Et d'être un petit peu dans un cadre différent que d'habitude le public attend.
Est-ce qu'on reste un enfant tout le temps, quand on est pianiste, quand on est artiste?
Si je parle de moi, oui, sûrement. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite, ma mère a dit.
C'est drôle, parce que si je peux me permettre de vous interrompre, vous avez eu une petite air boudeur juste avant de commencer à parler. Oui, je crois que oui.
Et d'ailleurs, ça commence, ce mélange de quelqu'un déjà grand et en même temps très petit. Ça a commencé déjà quand j'étais trop petite. Quand j'étais vraiment petite, ma mère disait que j'avais des moments quand je parlais comme quelqu'un de très sérieuse. Et après, des moments comme des autres enfants. Et maintenant, c'est pareil. J'ai l'âge d'une grande femme, donc je dois être sérieuse. Mais des fois, j'ai des moments quand je suis très très petite, dans ma tête.
Parce que quand un pianiste est particulièrement doué, qu'il est enfant, il a cette faculté de se concentrer qui est assez faramineuse.
C'est vrai, et ça on habitue depuis l'enfance. Donc probablement quand on pense des disciplines de concentration, tout ce qui nous lie avec l'instrument quand on reste seul, quand on travaille, ça nous rappelle aussi l'enfance, parce que cette discipline on avait très fort quand on était enfant. Peut-être plus qu'aujourd'hui, parce qu'après quand on grandit, on fait des concerts, on voyage, il y a un peu moins de ça, un peu moins des heures au piano aussi, ou les heures planifiées d'avance. Mais en tout cas, quand on s'assoit au piano et on travaille, on a cette impression que on va vers notre enfance.
J'ai l'impression que aujourd'hui, les enfants, ils sont surtout concentrés quand ils sont devant leur ordinateur. C'est plus comme autrefois, ou à chercher des Pokémon, ou à je ne sais pas quoi faire.
C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur en Géorgie, quand on était enfant. C'est apparu quand on était déjà teenager et on était très lent pour apprendre parce que déjà on n'avait pas l'ordinateur à la maison. Après, quand on achetait, c'était déjà beaucoup plus évolué ici. Mais moi, je suis quand même différente génération. J'ai beaucoup de contacts avec l'internet et l'ordinateur pour les emails, etc. Tout ce qui est travail, la carrière, mais pour le reste, un peu moins, je pense, que teenager d'aujourd'hui.
Katia Bougnatichvili, vous avez choisi une danse slave que vous interprétez avec votre sœur, puisqu'il est question de frères et sœurs orphelins, ce qui n'est pas votre cas, mais c'est pour cela que vous aidez cette cause ce soir. Vous êtes avec votre sœur, toutes les deux, au piano. Danse slave de Dvorak en mi mineur par Katia et Gvantsa Bougnatichvili. C'est votre sœur cadette, on dit?
Non,
elle est petite. Aînée.
Elle a 13 mois de plus. Quand j'écoute ça, ça me rappelle le processus d'enregistrement, bien sûr l'enfance aussi. Mais l'objectif principal, c'était de garder la fraîcheur dont on jouait quand on était petite. parce que cet album Motherland c'était consacré quand même à ma patrie, à ma mère, à mon enfance, à la femme en général, et c'est important de retrouver la fraîcheur qu'on avait quand on était petite.
Vous vous entendiez bien avec votre sœur Gwanza, ou vous tiriez les cheveux parfois ou...
Non, on s'entend vraiment bien. D'habitude, des fois, quand on avait des petits moments, quand on n'était pas d'accord, c'était pour que l'autre prend plus, pour que l'autre a plus de confort, etc. Donc, on s'inquiétait pour l'autre, et comme les deux s'inquiétaient pour l'autre, l'un pour l'autre, c'était ça, des petits soucis, sinon il n'y avait aucun autre problème entre nous. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pareil. On a vraiment une relation magnifique. C'est parce qu'elle est très sympa.
Mais une relation magnifique, en dépit du fait que vous êtes beaucoup plus star, vous êtes beaucoup plus lancée. Elle est pianiste. Mmh. Est-ce que ça ne pourrait pas causer des problèmes? C'est des problèmes de jalousie entre
soeurs. En tout cas, ça n'a jamais été le cas avec nous. Parce que justement, c'est une fille qui est incroyablement généreuse. Et elle a jamais eu autant d'ambition que moi. Moi, j'ai pas eu vraiment des ambitions, mais moi, je voulais réaliser des choses et je le faisais. Elle se sentait plus confortable chez elle, plus tranquille. Mais la jalousie, non. Elle a toujours montré l'admiration, mais jamais de la jalousie. Ça, je pense, c'est parce qu'elle a un caractère incroyable que je rencontre pas dans la vie réelle.
Si ce n'était pas votre sœur, ce serait une amie proche?
Ah oui, âme sœur, c'est sûr. Elle et moi, on a toujours fait tout ensemble. Mais j'ai connu d'autres sœurs ou d'autres frères qui étaient à même école musicale, parce que souvent dans la musique, si la famille est musicale, les enfants ils vont ensemble à l'école musicale, qui avaient des problèmes entre eux. Justement, il avait concurrence, ce genre de sentiments. Mais ça n'a jamais eu lieu chez nous, parce que ma sœur était très tendre envers moi et j'étais toujours sa petite sœur. Elle me gâtait toujours. Elle montrait qu'elle avait une admiration. On n'a jamais eu ce genre de problème. C'est vraiment grâce à elle qu'on n'a jamais eu de problème.
Autrefois, les orphelins, quand il y avait une fratrie, on les séparait, ce qui est affreux, parce que c'est presque une double peine. D'abord, on perd ses parents, et en plus, comme si c'était pas assez difficile, on est séparé de ses frères et sœurs. Et c'est une idée géniale que promeut SOS Village d'Enfants. Vous le comprenez, ça, que d'être bien avec son frère ou avec sa sœur, c'est capital pour être mieux armé après dans la vie.
Tout à fait. On se sent comblé. On sent qu'on a cette affection qu'on cherche pas après ailleurs. On n'a pas cette manque dans la vie. On n'est pas un manque perpétuel et on n'est pas en recherche perpétuelle. J'ai eu cette chance d'avoir cette famille, mais aussi avoir une sœur, parce que j'ai jamais vraiment cherché les amis. J'ai toujours été agréablement surprise quand je rencontrais des gens que j'admirais ou qui m'inspiraient ou que j'aimais bien. Mais j'ai jamais eu cette manque de chercher ailleurs, dans les autres familles ou dans les autres personnes, cet amour que j'ai eu grâce à ma sœur et grâce à ma famille. C'est pour ça, SOS Village, je pense, et comme vous dites, c'est une idée géniale, mais très humain aussi, et c'est une chose remarquable qu'il faut prendre comme exemple. Et ça montre que aussi ces genres de projets peuvent se développer et devenir mieux en mieux et se raffiner.
Vous avez parlé de manque, Katia Bougnatichvili. Ça a allumé une lumière dans mon petit cerveau. Parce que c'est vrai que souvent, on dit que les artistes, ce pourquoi ils se produisent sur scène, parce que c'est quand même difficile, la vie d'artiste, quand même, dans les hôtels, même si on n'est pas très en forme, il faut quand même donner 100%, 150% tout à un public, et puis le lendemain repartir. C'est souvent qu'il y a un manque en soi. Alors, un manque d'amour, un manque de reconnaissance. L'exprimeriez-vous ainsi, vous?
Ça peut être manque de beaucoup de choses, mais en même temps, on peut se sentir comme une personne assez complète, des émotions, d'affection, mais quand même chercher ses sentiments. Pour moi, ça n'a pas été un manque, c'était une routine plutôt, parce que j'ai commencé très tôt. On m'a mis sur scène très tôt, ça m'a plu, c'était pas facile, mais ça m'a plu. Et après, quand une fois j'ai senti ce qui est l'odeur du scène, l'odeur des salles de concert publiques, cette espèce de bruit qu'on entend, comme l'applaudissement ou le silence pendant le jeu, c'est quelque chose qui fait peur quand on est petit, naturellement, mais en même temps, on s'habitue et on pense que c'est un moment quand on est entendu. Moi, j'ai ce sentiment que ça peut être une manque d'être entendu. Nous, on a cette chance d'être entendu, peu importe par la musique ou par pendant les interviews en général. Les gens qui réussissent dans cette direction, on a l'impression qu'on est entendu, nos douleurs, nos manques, nos émotions, notre amour, tout ça, c'est entendu par la musique ou par les paroles. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, même si ça existe l'Internet et tous les moyens pour s'exprimer, cette manque, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Facebook des moments quotidiens de la vie, s'expriment, maintenant j'ai fait ça. Je peux comprendre cette manque d'être entendu parce que les gens ont pressé, ils n'ont pas le temps. Et le concert permet de s'arrêter, qu'il y a le silence, on écoute quelque chose, on est au centre de tout ça. Donc on a vraiment une grande chance, aussi une grande responsabilité en même temps.
Alors ça, c'est plutôt bien de vouloir être entendu, mais vouloir être entendu quand on a quelque chose à dire, c'est bien. Mais sur Facebook, quelquefois, on veut surtout être vu. Il y a une chose un peu narcissique, on veut être vu, admiré, alors qu'on n'a rien fait d'extraordinaire. Ça, c'est peut-être l'autre côté.
Oui, mais en même temps, même quand on a quelque chose d'important à dire, quand on a envie non seulement de dire, mais aussi d'être entendu, c'est narcissique aussi, même si c'est quelque chose incroyablement important.
Vous vous sentez très narcissique, vous ?
Je pense que nous sommes tous un petit peu. Et moi aussi, j'ai été habituée à être, pas être narcissique, mais se concentrer sur mon ego, parce que mon ego était la source de l'interprétation, de ma force quand j'étais seule sur scène. Je restais avec mon seul ego. Bien sûr, après, j'essaye d'effacer l'ego quand je suis en musique, mais c'est la base de tout ça. Mais cette envie d'être entendue, même si on a quelque chose d'important à dire ou quelque chose pas vraiment signifiant, c'est quand même partie de l'humain, donc je peux comprendre.
Katia Bouniatichvili, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons toujours autour de l'enfance, autour de vos petites madeleines musicales.
Vous écoutez Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Katia Bouniatichvili, il y a quelque chose dans j'aimerais que vous, enfin quelque chose, quelqu'un plutôt de très important pour vous, c'est votre maman.
Oui.
J'aimerais que, je crois qu'elle a été très importante pour votre sœur et pour vous, pour le travail d'artiste, mais pas seulement le travail d'artiste.
Oui. C'est éventuellement la plus grande personnalité dans ma vie qui m'a le plus inspirée et qui m'a donné la plus grande force. Et base de tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je suis aujourd'hui, ma mère, c'était pas seulement mon professeur, premier professeur, et aussi celui de ma sœur, mais aussi elle nous a appris d'être les femmes fortes. Et c'était pas facile en Géorgie parce que pour les filles, les situations sont un peu plus difficiles qu'ici en Europe. Par exemple, même ici, il y a certains problèmes. En Géorgie, comme on peut imaginer, il y a plus de ce genre de problèmes. Mais c'était en plus l'époque, les années 90, où mes parents n'avaient aucun moyen, comme la plupart de la Géorgie à cette époque-là, financièrement et moralement. La situation était déprimante parce qu'il y avait un chaos total, c'était dangereux dans la rue. Et mes parents, ils ont quand même pu faire pour qu'on puisse avoir l'éducation, apprendre les langues, apprendre la musique et devenir des femmes fortes. Et cet exemple, c'était notre maman. Donc, j'ai dit toujours que si les gens, ils veulent me faire vraiment mal, il faut viser ma mère parce que c'est vraiment ma force. C'est comme élixir de ma vie. Je prends l'énergie positive et la force quand il y a une difficulté d'elle. Et c'est vraiment quelque chose qui était la plus grande inspiration, et toujours.
Katia Bouniatichvili, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première.
Thank you.
Alors, vous avez fait une grimace.
Non, vous êtes méchant, Olivier. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Non, j'imagine un peu dans différents tempos, parce que c'était la première œuvre que je jouais sur scène sans l'orchestre, parce que le deuxième concert, c'était avec l'orchestre. Le premier, c'était cette petite pièce que je jouais. Donc, première odeur de scène, c'était avec cette pièce, c'est Tchaïkovski.
Le chant de l'alouette.
Oui.
C'est dans l'album pour l'enfance.
Oui, c'était parfait pour
commencer le piano. Mais vous le jouiez beaucoup plus vite, vous.
C'était plus vite, oui. Ouais. C'était assez virtuose pour mon âge, pour 6 ans, parce que c'est rapide. Il y a des triolets qui sont pas faciles pour les enfants, parce que c'est fait souvent avec 3e et 4e doigt. Et c'est pas très facile à bouger rapidement, et donc c'était le premier effet que j'ai fait sur public.
Est-ce qu'il y a une chanson traditionnelle géorgienne que vous pourriez me fredonner là, juste quelque chose comme nous, il y a des chansons pour les enfants. Il était un petit navire, le bon roi d'Agobert, des choses que vous avez dû entendre. Est-ce qu'il y a en Géorgie une chanson pour les enfants très belle?
Pour les enfants exprès, non, c'est ma mère qui essaye de composer des petites chansons, mais on a chanté avec ma sœur et ma mère en trois voix. Ce qui est particulier pour la folklore géorgien, c'est polyphonie, en trois voix. Donc chaque chanson, normalement, c'est en trois voix. Donc ma sœur était première voix, moi j'étais deuxième, ma mère était troisième, donc passe. Et ça, on a fait avec grand plaisir quand on était petit. Vous voulez que je fasse quoi?
Oui. Juste un peu, c'est juste pour la langue géorgienne. Juste pour la langue.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté, mais c'est quoi? Si vous voulez plutôt quelque chose de doux, profond, et lent, ou plutôt quelque chose de un peu joyeux et...
Comme vous voulez.
Non, c'est à vous de choisir, parce que si je veux choisir quelque chose et après je veux pas aimer ce que je fais, ça sera une tragédie. Donc je préfère que ça soit le destin, donc vous qui choisissez.
Peut-être quelque chose de... d'allègre.
D'allègre, d'accord. Hara l'ordio della batteria, oro della, hara l'oro della delia, nani nani na. Je vais vous tuer après l'émission, c'est sûr.
C'est très beau, c'est très beau.
Quelle horreur, j'ai honte.
Ce qui vous arrive de chanter justement...
Ça s'appelle la manipulation.
Est-ce que vous arrivez de chanter en jouant, par exemple, en jouant scène d'enfant, ou en jouant de fredonner avec?
En fait, notre habitude à la famille, c'était chanter ensemble. Donc, j'ai toujours fait deuxième voix. Donc, c'est un peu caché, deuxième voix. Ma sœur, elle avait le solo, elle a une très jolie voix. Moi, j'avais deuxième voix parce que j'avais très bonne oreille. Donc, j'ai faisais en correspondance avec elle, c'est qu'elle chantait. Donc, je la suivais avec deuxième voix. Et c'était un petit peu dans l'ombre. Donc, j'ai jamais eu peur de chanter avec elle parce que c'était un peu dans l'ombre. Dans le chant, c'est moi qui étais dans l'ombre. Donc ça a toujours été confortable. Mais comme ça, chanter seule, solo, non. J'oserais pas.
Le plus important au piano, Katia Bunyantichvili, c'est les doigts ou c'est l'oreille? Ou c'est autre chose?
C'est les doigts, les oreilles, mais surtout le cerveau. Je pense que tout vient quand même du cerveau. Parce que la rapidité des réactions, la rapidité de l'oreille aussi, même si on a très bonne oreille, et tout ça ensemble, dépend du cerveau. Donc le cerveau était le plus grand garant pour moi, garantie de sécurité dans tous les sens. C'est-à-dire j'ai toujours eu confiance de mon cerveau d'abord et après d'autres choses.
Est-ce qu'on peut être pianiste et être bête?
Oui, et on peut être une mauvaise pianiste qui est bête, oui, ça existe.
Non, mais le
être
cerveau
un très bon pianiste
aide, est... le cerveau aide quand même à résoudre, quand on résout de grandes difficultés.
Non, je pense, intellect, c'est très important. Après, ne pas être érudit, bien sûr, ça peut être... On connaît des exemples des gens qui sont incroyablement doués, mais qui n'ont pas... beaucoup, par exemple, d'éducation, mais naturellement, ça nous fascine. Mais ce n'est pas manque d'intellect, c'est peut-être manque de possibilité d'avoir une éducation ou être paresseux ou ne pas être intéressé par certaines choses. Mais je pense, intellect, c'est quelque chose qui est quand même très important pour être pianiste. Parce que le piano, ce n'est pas juste une seule jolie voix qui chante une mélodie esthétique, c'est beaucoup plus. Il y a la polyphonie, il y a quand même complexité de l'instrument qui est plus intéressant quand il y a l'intellect, à mon avis. Oui.
Je vais peut-être me faire tuer, non seulement par vous, mais par d'autres, par des ténors, mais j'ai l'impression que c'est plus facile quand on est ténor de pas forcément être très intelligent, mais un pianiste, il est forcément intelligent, parce que il a la chose est.
En tout cas, c'est désirable c'est que ça soit. Oui, c'est beaucoup plus complexe. C'est vrai, ténor, c'est comme chanter du cœur, en fait. Et pour chanter une magnifique air italien, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir lu Goethe, Faust. Après, si on a lu, c'est très bien, mais c'est pas une nécessité. Pour le piano, moi, je sens quand il y a complexité derrière le jeu ou quand il n'y a pas. Mais ça veut dire pas que tout le monde chante. Après, le piano, ça peut être très divers. Ça peut être un piano improvisé qui est très léger. Et là, ça nécessite pas absolument d'être incroyablement alourdi par l'information pas tellement nécessaire. Donc ça dépend du genre, ça dépend de qu'est-ce qu'on joue, mais c'est toujours agréable quand il y a derrière une bagage intellectuelle.
Il y a même certains chanteurs qui ne lisent même que leur rôle et qui ne lisent pas tout le... Quand ils font Othello, ils chantent juste leur rôle. Ils ont pas lu... Vous avez lu le Faust de Goethe au moment de la sonate en si mineur de
Liszt. J'ai lu beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, j'avais 10 ans. Et d'ailleurs, quand j'ai lu, c'est la première partie que j'ai lue à l'époque, en géorgien, j'ai parlé avec ma mère. Elle était un peu choquée quand même que j'ai été intéressée par ce livre, parce qu'elle s'est dit, peut-être elle joue avec le livre, mais elle ne lit pas vraiment, parce que c'est quand même un peu tôt, 10 ans. Mais après, on a parlé, elle était vraiment très touchée que non seulement j'ai lu, mais que j'ai été passionnée de ce livre. Et après, quand j'ai commencé à prendre Sonate de Liszt, j'avais 15 ans, j'avais cette grande inspiration de Faust, naturellement. Et d'ailleurs, au premier album, j'ai construit complètement autour de ce thème. Donc, souvent, c'était la littérature qui était d'abord l'inspiration et la musique après.
Katia Bugnatishvili, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. C'est une merveille et c'est pour ça que c'est impossible de couper cette rêverie extrait des scènes d'enfants de Robert Schumann, interprété par vous, Katia Bugnatishvili.
Ah, c'est la version à moi, ouais. D'accord. Scènes d'enfants, j'ai joué quand j'avais 10 ans et c'était premier long morceau, donc une première cycle sur scène. Donc c'était un premier plaisir de dramaturgie que j'ai ressenti parce que c'est différent quand on commence par une morceau, après ça change le caractère, ça a été un vrai plaisir dramaturgique que j'ai adoré. Et depuis, j'adore les œuvres qui sont longues et dramaturgiquement très complexes.
C'est Vladimir Horowitz qui, quand il était, quand il a signé chez RCA, d'abord il a fait une version des scènes d'enfants géniale,
oui.
Mais en plus il a exigé, c'était un petit caprice d'enfant, que personne d'autre que lui n'enregistre Rêverie.
Ah, c'est vrai. Ah ben je peux comprendre, parce que c'est tellement génial sa version que je peux comprendre. Et c'est pareil pour moi, Scrabine Étude qu'il joue Horowitz. J'ai tellement adoré sa version que je ne voulais pas enregistrer. Après, finalement, j'ai fait, mais ça n'a rien à voir. Je peux vous dire à vous, les gens qui écoutent votre émission, que c'est vraiment très très loin et beaucoup plus bas que la version d'Horowitz, parce que c'est unique. Il avait une capacité d'être unique, tellement qu'on a peur d'approcher les choses qu'il a déjà fait. C'est vraiment incroyable, Horowitz, j'adore.
Ça peut être une source d'inspiration. Horowitz, je dis pas source d'inspiration, évidemment, pour imiter, ça ce serait vraiment primitif, mais pour voir que quelqu'un avant a su être original. Donc ça nous permet, à vous, pianiste, de pouvoir oser, puisque quelqu'un a montré le chemin, qu'on pouvait avoir un très haut degré de raffinement, de folie même, mais aussi de perfection, de tout, quoi.
Et c'est tellement unique que ça peut inspirer une autre version qui sera complètement
différente.
Je comprends tout à fait votre question, et d'habitude c'est le cas, et ça a été aussi le cas, par exemple, j'ai toujours été grande admiratrice de Martha, et c'était ça que j'aimais chez elle, qu'elle était tellement unique, que ça me donnait inspiration de faire quelque chose qui pouvait appartenir qu'à moi. Par contre, quand j'écoute Horowitz, un morceau que j'aimerais, par exemple, apprendre, ça ne m'encourage pas à apprendre parce que, en tout cas, c'était pareil pour Scrabine, parce que j'adore tellement que je me dis, c'est comme quand on est tellement heureux dans la vie qu'on se dit, je préfère que le moment s'arrête maintenant, on ne peut pas être plus heureuse. J'ai le même sentiment quand j'écoute certaines choses par Horowitz. Quand j'écoute, je me dis, on peut pas aller plus loin. Donc, je suis tellement dans l'admiration de ces génies que j'ai pas envie de me reconcentrer sur mon ego. J'ai ces sentiments avec Horowitz assez souvent. Pas pour tout ce qu'il joue, mais pour certains petits morceaux que j'admire, des petits bijoux de perles.
Et c'est drôle parce que Horowitz, il est défendu par beaucoup de pianistes. Beaucoup de pianistes ont comme ça une... Les critiques moins, les critiques sont plus partagées, mais les pianistes ont une fascination pour Horowitz.
Parce que c'est unique et c'est vraiment un génie parce que il a créé quelque chose qui n'existait pas avant, même si ce n'est pas des notes, même si il composait naturellement, il faisait des arrangements très intéressants. Mais il crée quelque chose quand il interprétait qu'on pouvait pas imaginer avant. Et c'est tellement génial que ça arrête complètement le moment, il n'y a plus ce qu'il y avait avant ou après, c'est juste le moment. Il sait capter ces moments très joliment et très de la façon que Horowitz seulement peut faire, donc ça mérite une admiration, c'est pas possible autrement.
Et les couleurs sont incroyables. D'ailleurs, les couleurs, vous êtes un peu, vous, les pianistes, comme des peintres, c'est-à-dire avec les touches, avec les pédales, avec tout ça. C'est autant de petits...
palettes très riches.
Palettes. Oui.
C'est vrai, pour moi, les couleurs, c'est très important. Et ça montre aussi que la musique n'est pas juste quelque chose de belle. On a souvent parlé de ça. Et je répète avec grand plaisir encore maintenant, c'est que la musique peut être divers. Et d'ailleurs, Liszt disait ça, que la musique avait beaucoup plus de potentiel, qu'il pouvait même décrire l'architecture, il pouvait décrire le paysage, le caractère des gens, des portraits. Donc, beaucoup de choses. Ça peut être une analyse psycho d'une personnalité. Donc, la musique peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Et ça peut être aussi très simple, tout simplement très belle. Donc, les couleurs, ça permet de faire tout ça. Et surtout, certains instruments permettent de faire ça sans aide des autres instruments comme le nôtre, le piano.
Katia Bougnatichvili, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale. C'est le début du Requiem de Mozart, ici dans une interprétation plutôt baroque, le Bach Collegium du Japon, et c'est dirigé par Maestro Suzuki, celui qui a dirigé toute l'intégrale des cantates de Bach. Alors, Katia Bougnatichvili, qu'est-ce que cela vous rappelle?
C'est vraiment l'œuvre majeure pour moi, de tout le répertoire de la musique classique. Si je dois vraiment choisir, ça sera Requiem de Mozart. J'adore cet introitus, donc le commencement de ces Requiem, ça me rappelle depuis qu'on avait 7-8 ans avec ma sœur. On écoutait ça chaque nuit avant de s'endormir avec ma sœur. On s'allongeait ensemble sur le lit, tous les deux. Et avant de s'endormir, on écoutait ça et on imaginait des choses, on vivait dans différents univers. C'est un peu bizarre pour les enfants de 7-8 ans, mais ça nous semblait très naturel. Maintenant, si on fait une parallèle avec les SOS Village, imaginez les enfants qui sont de même famille et quand même arrachés de leurs racines à cause de différentes raisons. Mais ils ont une petite partie avec eux, ça peut être frère ou une sœur, et ils pourront aller s'endormir ensemble quelque part, écouter la musique ensemble. C'est quand même quelque chose qui est incroyablement touchant et quelque chose que j'admire énormément et ça me touche vraiment beaucoup. Donc je dois dire que vraiment, il faut remercier les gens qui pensent à ces genres de choses et j'espère que ça va prendre avec plus de mashtap, donc avec plus de dimensions, et aussi j'espère qu'il y aura moins en moins d'enfants sans les parents en même temps.
Est-ce que Mozart peut être, selon vous, plus qu'un compositeur, c'est-à-dire comme un ami de l'âme, évidemment, mais comme un penseur, comme quelqu'un qui montre le chemin. C'est-à-dire, je pense par exemple à son concerto pour violon et alto, où il y a entre le violon et l'alto une égalité parfaite. Ce que je veux dire, c'est que même si Beethoven, après, il incarne plus les idées de la Révolution française, elles sont déjà chez Mozart, peut-être de manière moins...
Plus harmonieux, peut-être.
Voilà, c'est ça. Mais il y a déjà ce souci de humain, ce souci de l'égalité entre les hommes.
Tout à fait. Quand je pense à Mozart, je pense à une vie qui était vraiment vécue, qui était courte, mais qui était vraiment vécue. Et je vois des différents visages de Mozart, donc même pas physique, mais quelque chose plutôt les images, qui peut représenter l'homme sans lui imaginer physiquement. Mozart, il pouvait être quelqu'un qui était très populaire, qui parlait aux gens. C'était quand même quelqu'un qui était incroyablement individualiste parce qu'il a complètement détruit tout ce qui était avant. Par exemple, son côté un peu rebelle envers tout ce qui était religieux ou tout ce qui était la cour et aristocratie. Il savait sa place, il savait que l'individu était essentiel, il savait que le génie avait plus de valeur que, par exemple, d'être juste aristocrate. Il savait toutes ces choses. Et on voit c'est pas une arrogance, mais on voit sa clarté de pensée dans sa musique. On voit qu'il est quand même quelqu'un qui a une confiance de soi-même dans sa musique. En même temps, on sent qu'il a l'amour, envers les peuples, parce qu'il était parti de peuple. On pourrait sentir ça dans sa musique. Mais il n'a pas non plus la haine pour les gens qui leur, par exemple, ordonnaient faire certaines choses. C'est pas quelqu'un qui fait rébellion parce qu'il hait les gens qui le regardent de haut. Il a peut-être un peu de l'ironie. Peut-être il a un peu de cynisme, mais il ne hait pas les gens. Même les gens qui lui paraissent beaucoup plus bas que lui, même s'ils ont une position plus haute. Et du coup, cette complexité de sa personnalité, mais en même temps l'harmonie dans soi-même qu'il ressentait, qu'on peut ressentir dans sa musique, l'amour et la paix qu'on peut ressentir dans certaines musiques, parce qu'il y a toujours l'action, il y a toujours ces moments de vivacité, mais après il y a les deuxièmes mouvements quand notre cœur s'arrête parce que on ressent l'appel dans le chaos total. Il a des capacités incroyables à exprimer dans la musique, sa musique est incroyablement riche. Et ce n'est pas seulement juste simple qu'on imagine souvent Mozart, parce que Mozart, c'est quelque chose qu'on présente toujours aux gens quand ils ne connaissent pas la musique classique. Mais si on va chercher beaucoup plus loin, on trouve beaucoup plus que ça.
Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il a la conscience qu'il est un génie,
ouais.
Que ce génie-là lui donne des droits plus importants, ouais, dans la musique, ouais, que des gens qui ont moins de talent, ouais, que lui. Ça, pour lui, c'est très clair.
Ouais.
Et il ne supporte pas le fait que des médiocres soient plus hauts que lui, alors que lui, qui est plus important, devrait avoir... Mm. Mais en même temps, sur le plan humain, il estime, et je pense, que tous les hommes ont les mêmes droits. Enfin, oui. Il a déjà,
oui,
cette idée-là.
Parce qu'il peut parler avec quelqu'un qui cuisine pour,
oui,
pour les gens très simples. Il peut parler avec cette personne-là. Mais en même temps, il ne refuse pas à parler aux gens qui sont hiérarchiquement plus hauts. C'est-à-dire, il peut avoir une ironie, mais justement, ses capacités de le parler aussi. Il parle à tout le monde. On sent ça dans sa musique et dans sa vie. Je pense, quand on imagine le film de Miloš Forman, on se souvient peut-être de Salieri et Mozart, mais je pense que c'est un génie, parce que dans ces films, il ne parle pas seulement de Mozart, il parle de ce qui est vrai talent, et les gens qui n'ont pas talent et les gens qui n'ont pas talent mais qui savent qu'est-ce qui est un vrai talent. Donc il y a ces trois différents oncles et il parle de ces trois différents oncles avec même amour. Il y a aucun personnage dans ces films qu'on déteste vraiment. On est fasciné par certains, on aime plus les autres, mais chacun a sa vérité. Et Mozart, c'est très bien, ça va très bien avec Mozart, je pense, parce que dans ses films, on montre que Mozart lui-même, il était en harmonie avec tout le monde. Même s'il avait des petits moments des moments quand il n'était pas d'accord, il disait ce qu'il pensait, il partait, il laissait tomber. Mais il est quand même en harmonie avec la vie, avec les gens, parce qu'il aime la vie, il aime les gens, et on sent cette harmonie. Donc, cette égalité que vous parlez, on peut ressentir éventuellement de ces façons-là.
Variation Köchel 501 de Mozart, puisque nous en parlions, Katia Bouniatichvili, interprétée par Martha Argerich et Steven Kovacevic. Est-ce que la source de l'amitié, c'est pas justement dans... Alors ça, c'est à quatre mains, mais c'est la manière dont... D'ailleurs, la manière dont... Pardon d'avoir plusieurs idées en même temps, mais la manière dont Mozart voyait la femme, je crois qu'il l'a vue aussi à travers sa sœur, c'est-à-dire... Ils étaient tous les deux sur le même, très proches et à égalité. Il y a quelque chose aussi comme cela chez Martha Argerich et Steven Kovacevic, qui ont été amants, mais qui sont toujours, qui ont même une fille, mais qui sont comme frères et sœurs. Quand on les voit, ils sont très proches, très amis.
C'est
la source, ça.
Oui, et souvent, symbole de ça parmi les musiciens, naturellement, je parle des gens qui font la musique ensemble ou qui jouent la musique. Quatre mains, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas faire avec...
N'importe qui.
Exactement. On peut essayer juste comme ça pour s'amuser, mais pour faire vraiment pendant quelques temps répéter ces genres d'occasions, il faut vraiment se sentir très proche de la personne. Deux pianos, c'est encore différentes choses. C'est plus complexe et on peut aller très loin. Et même deux personnalités qui ne s'entendent pas, s'ils veulent, ils peuvent trouver une communication. Mais quatre mains, c'est vraiment, ça a toujours été et ça reste toujours une... processus de faire la musique en très grande intimité. C'était pour les chambres des salons où les gens se rassemblaient ensemble pour faire de la musique, pour parler de la poésie, de la philosophie, de situations sociales, de théâtre, de l'art en général. Ils jouaient, ils chantaient ensemble. Donc c'était vraiment quelque chose entre les amis. Vous avez très bien
remarqué. Et en plus, physiquement, on était très proches.
Exactement.
Donc on a intérêt à bien s'entendre.
C'était aussi probablement très souvent le cas de flirter avec quelqu'un, la possibilité de s'approcher quelqu'un qui nous plaisait.
Surtout que les mains se croisent, se frôlent parfois.
Exactement. Mais donc Mozart avec sa sœur, on dit même qu'ils ont inventé une langue secrète entre eux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils avaient une relation vraiment très proche. Après, il y avait différents problèmes. C'est que quand ils sont élevés, la sœur de Mozart est devenue déjà une femme jeune. Elle avait l'âge de se marier. Là, c'était pas tellement bien prise qu'elle joue encore, elle continue à jouer de la musique parce que c'était plutôt un métier pour un homme. Donc après certains temps, malheureusement, cette barrière de le regard social n'a pas donné la possibilité à la sœur de Mozart qu'elle continue, par exemple, à faire les tourner avec son frère. C'était plus possible pour elle. Avec le temps, ça a changé, heureusement. Mais ça reste quand même, dans mon imagination, ça reste comme souvenir d'enfance. Et chaque fois, quand on va penser de Mozart et sa sœur ensemble, on va imaginer au piano. C'est pareil pour moi avec ma sœur. Quand j'imagine ma sœur, j'imagine quatre mains, j'imagine la période quand on jouait ensemble à quatre mains. Et ça doit être la même chose pour les gens qui ont expérimenté ces sentiments de faire souvent quatre mains avec quelqu'un. C'est quelque chose, c'est une projetée incroyable. Ça peut être romantique, ça peut être très amical, ça peut être quelque chose de très intime en tout cas.
Katia Bougnatichvili, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
Vous écoutez Radio Classique. Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Katia Bougnatichvili, c'est toujours un bonheur de vous recevoir dans Passion Classique à l'occasion de cette journée SOS Village d'Enfants. Et très gentiment, vous avez accepté de venir pour incarner ce projet magnifique. Alors, j'ai lu récemment que l'orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un orchestre que personnellement j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment des musiciens formidables et Philippe Bender a fait beaucoup de choses et le nouveau chef est très bien aussi, l'Autrichien. Mais ils avaient comme marraine Brigitte Ingerer et comme la pauvre Brigitte n'est plus parmi nous, mais ils vous ont choisi.
Oui, c'était
c'est
très
quelque
grand
chose
bonheur.
De très touchant.
Ah oui, énormément. Je connaissais pas beaucoup à propos de Brigitte Ingerer, juste que c'était une personnalité très forte. Mais après, on m'a fait écouter un extrait de son interview où il parle justement de la liberté dans le jeu et beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée. Et j'ai ressenti que dans les pensées, ce qui concerne pas d'être soi-même, d'être libre sur scène en faisant l'interprétation, la vie des autres, quel regard on peut avoir, j'ai senti que il y avait quelque chose que j'ai trouvé en parallèle avec moi dans la personnalité, juste dans les pensées pour certaines choses. Et donc j'étais très touchée parce que j'ai su qu'en France, Brigitte Ingerer était vraiment aimée. D'ailleurs, elle a joué avec mon professeur Oleg Meisenberg beaucoup. Ah, ils ont fait deux pianos ensemble beaucoup. Parce qu'elle a étudié aussi à Moscou et mon professeur Oleg Meisenberg, qui était de Odessa, mais il a étudié aussi à Moscou. Ils ont beaucoup fait à l'époque ensemble. Et je connaissais déjà son nom de mon professeur. Et donc, quand j'ai su pour la première fois, quand on m'a proposé, j'ai dit tout de suite oui. Parce que j'ai trouvé que c'était très touchant et j'étais honorée, mais en même temps, je me suis dit pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, parce que je suis quand même assez jeune. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui parce que j'ai trouvé émotionnellement très fort qu'ils ont eu envie après le concert, juste après le concert, de proposer ça. Et surtout, c'est les musiciens qui ont voulu, donc je pouvais pas dire non parce que c'était honorable pour moi. On va faire des projets ensemble, donc ça veut dire.
Comme quoi?
Pas juste le nom de ma reine, on va faire des choses.
Ah, c'est et c'est juste après avoir joué le troisième de Beethoven.
C'est ça, oui.
Ah, c'est ça. Ouais.
Il y a des choses prévues aussi avec ma sœur, donc concerto de Mozart et d'autres choses. Oui.
Et en plus, il fait beau.
En plus, il fait beau, oui. Chaque fois quand j'étais là-bas, c'était pas l'été, mais c'est pas grave. J'espère qu'on aura d'autres occasions.
Vous êtes féministe?
Je suis pas iste, c'est-à-dire...
Très bonne réponse.
Oui.
Pas communiste.
Non.
Vous êtes bien pour la communauté,
non.
Mais pas communiste.
Voilà. Pas du tout iste, mais je pense que j'aime l'égalité. J'aime égalité, fraternité, liberté, ça me correspond. C'est-à-dire, je suis d'accord avec. Ça sonne un peu rigolo de dire de cette façon, mais égalité, c'est important. Et il n'y a pas d'égalité souvent. Mais je ne suis pas féministe parce que je ne suis pas agressive.
Vous n'êtes pas égalitariste.
Pas encore, non. Pas de iste. Non, je pense que je ne suis pas aussi agressive. Je pense que c'est mieux quand on fait les réformes en douceur. Parce que ça peut faire mal à beaucoup de gens. Parce que souvent, quand on fait réformes, c'est douloureux pour les gens qui ne pensent pas de même façon. Et ils ne pensent pas de la même façon parce qu'ils ont d'autres habitudes. Donc, il faut qu'on fasse ça en douceur. Il faut qu'on s'explique, on a un dialogue. Et en douceur, on change certaines choses. Donc, je ne suis pas agressivement. Je ne dis pas que les femmes... sont meilleurs que les hommes, d'ailleurs je ne considère pas, mais ça sera bien si on aura même respect pour certaines choses, et surtout dans les pays où il y a vraies difficultés, vraies discriminations, là c'est un vrai travail à faire.
Alors, Grieg, sans aucune transition, puisque ça va être Grieg, par Némé Järvi. Là, c'est le père et deux fils, et vous avez joué tous les trois, chef d'orchestre.
Oui.
Et vous avez joué avec tous les trois. Vous avez
travaillé... C'est vrai. J'ai enregistré avec Paavo, donc c'est un avantage pour Paavo. Mais sinon, j'ai joué avec les trois. Je plaisante, bien sûr. Mais je joue avec les trois, et les trois sont très différents. Mais j'aime beaucoup jouer avec les trois, parce que c'est des personnes d'abord, des gens qui sont incroyablement sympathiques et des gens bien. Déjà, c'est pour ça qu'on a envie de jouer plus qu'avec les autres. Et à part ça, chacun a quelque chose de différent, chacun d'eux, et je trouve ça intéressant. Et vraiment très doués les trois.
Au matin, alors que nous sommes le soir, ça prouve que nous sommes aussi un peu rebelles. Mais c'est vrai que pour certaines personnes dans le monde, c'est bientôt le matin.
Bientôt seul, oui.
Voilà, il vient de se lever. C'est Au matin, extrait de Peer-Gynt de Grieg et l'Orchestre symphonique d'Estonie, dirigé par Paavo Järvi, qui avait l'avantage dans le cœur de Katia Bogdatichvili, en tout cas dans le calendrier. Eh bien, merci beaucoup. C'était trop court oui. De vous avoir. J'espère que...
Toujours agréable de parler avec vous. Et encore une fois, j'aimerais souligner mon respect pour SOS Village. Et j'aimerais que les gens retiennent ce nom de cette organisation. Parce que c'est bien de faire notre travail à nous, faire notre carrière. Mais c'est aussi très bien de penser... Qu'est-ce qu'on peut aussi apporter à la société? Donc, si on peut être utile, d'être utile.
Et tous les enfants de SOS Village d'Enfants vous remercient. Katia Bougnatichvili,
je leur dis bonjour et
ainsi.
Gros bisous.
Il faudra jouer pour eux.
Absolument,
un jour.
On va faire. J'ai déjà fait une fois, mais il y avait trop longtemps. J'ai d'ailleurs visité ce village en Géorgie et j'ai beaucoup aimé l'ambiance parce qu'on ne sentait pas traumatisme. À la maison de SOS Village en Géorgie. J'ai aussi visité en Autriche, mais jamais en France. Et on va planifier maintenant, ce sera l'occasion de planifier certains projets ensemble, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Katia Bougnatichvili. Merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Katia Bougnatichvili pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h en compagnie de l'historien du cinéma Serge Doubiana. Tout de suite, vous retrouvez Guy Boyer dans la grande galerie de Radio Classique. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.